bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une archive un peu spéciale, le numéro anniversaire du magazine Oops, début 1989.
Ah oui, Oops Magazine, une référence pour les utilisateurs d'AutoCAD à l'époque.
Exactement. Et ce numéro mettait à l'honneur une sortie majeure, AutoCAD version 10. Un logiciel qui, rappelons-le, dominait déjà le marché de la CAO sur PC. On parle de plus de 200 000 licences fin 88.
C'était énorme pour l'époque, un vrai standard.
Notre but aujourd'hui, voir ce que ce magazine de 89 nous dit sur les avancées de cette version 10. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale?
Mais d'après l'article, c'était vraiment un tournant. Surtout pour la 3D. La version 9 était, disons, plus rudimentaire sur ce point.
Et la grosse nouveauté, alors?
Le magazine insiste beaucoup sur le multi-fenêtrage dynamique. Imaginez, on pouvait afficher jusqu'à 16 vues en même temps.
16 vues?
Oui, vues de dessus, de face, en perspective. Et le truc, c'est que si on modifiait l'objet dans une fenêtre, hop, toutes les autres se mettaient à jour instantanément.
Impressionnant. Difficile d'imaginer ça sur les écrans de l'époque, d'ailleurs. Mais au-delà de juste voir l'objet sous tous les angles, est-ce que la création 3D elle-même changeait? L'article parle du SCU, le système de coordonnées utilisateurs.
Ah, le SCU. Ça, c'était une petite révolution en soi. Avant, on avait le SCG, le système de coordonnées générales.
Fixe.
Un seul repère pour tout le dessin.
Ok.
Avec le SCU, on pouvait créer son propre repère.
N'importe où.
Aligné sur une surface inclinée, par exemple.
Ah, d'accord.
Pensez à dessiner, je sais pas moi, une lucarne sur un toit en pente. Avant, c'était un vrai casse-tête.
J'imagine.
Là, on cliquait sur la pente, et paf, ce plan devenait temporairement notre nouvelle feuille de dessin. Ça simplifiait énormément la géométrie complexe, quoi.
Une sorte de repère à la demande, adapté à l'objet. Malin. Et pour remplir cet espace 3D plus souple, il y avait des nouveaux outils.
Oui, tout à fait. Le magazine détaille les nouvelles entités 3D. Il y avait les 3D polylines.
Des polylignes en 3D.
C'est ça. Des lignes dans l'espace qui pouvaient mélanger segments droits, arcs de cercle et même des courbes splines. Et surtout, il y avait les 3D meshes.
Des meshes. Des maillages.
Exactement. Des surfaces complexes définies par une grille de points comme un filet. On pouvait en créer jusqu'à 256 par 256 sommets.
Ah oui, quand même.
Et on les générait de plein de façons, par révolution d'un profil, par extrusion, en reliant des sections. Ça ouvrait la porte à des formes beaucoup plus organiques, disons.
On sent qu'on passe d'une 3D assez basique à quelque chose de bien plus sophistiqué. J'imagine que tout ça, ça devait demander pas mal de ressources aux ordinateurs.
Ah bah oui, forcément. Pour gérer ces nouvelles fonctions 3D et aussi pour offrir plus de personnalisation, Autodesk a lancé ce qu'ils appelaient « Extended Lisp ».
Une version étendue de l'AutoLisp, le langage de programmation intégré?
C'est ça. Plus puissant, mais aussi plus gourmand. Il fallait un processeur 8286, ou mieux, en 386. Et surtout, la mémoire vive, 1 mégaoctet minimum.
1 mégaoctet?
Oui, et il recommandait même 2 mégas, alors que l'AutoLisp standard tournait avec 512 kilooctets. Le saut était considérable.
C'était le fameux passage au mégaoctet de RAM, une étape clé. Et est-ce que les anciens scripts Lisp fonctionnaient toujours?
Bonne question. Autodesk avait prévu le coup, apparemment. L'article mentionne un utilitaire, Flatland.
Flatland?
Oui, un petit programme fourni pour adapter les anciens scripts Lisp, ceux de la version 2.6 ou avant, à la nouvelle gestion de l'espace 3D et au STU.
Malin. Et pour l'installation? Toujours les disquettes?
Ah oui, bien sûr. On était en plein dedans. Disquettes 5 pouces 1 quart ou 3 pouces et demi, avec le petit programme install.exe, où il fallait bien choisir sa carte graphique, son digitaliseur.
Toute une époque. Un autre point intéressant soulevé par Oops, c'est l'arrivée d'AutoCAD sur une autre plateforme, le Mac.
Oui, c'était un événement. AutoCAD débarquait sur les Macintosh i et iX d'Apple.
Et ça tournait bien?
Ça tournait, mais alors? Attention les configs. Le magazine parle de 5 mégaoctets de RAM minimum.
5 mégaoctets en 89?
Oui, oui, énorme. Et très cher. L'article recommandait aussi des écrans couleur haute résolution spécifique, des tablettes graphiques pro. Clairement, la version Mac visait un marché très, très haut de gamme. Presque élitiste.
On comprend mieux. D'ailleurs, le magazine donne le prix de la mise à jour ou de l'achat. Passer à la version 10, c'était un investissement. Le prix de base était affiché à 31 250 francs hors taxe.
Ouf, oui, une somme. Mais ça reflétait l'ampleur des nouveautés. Si on résume ce que dit Oops, cette version 10 s'était vraiment perçue comme un bond en avant.
Oui.
La 3D devenait enfin pratique et visuelle avec le multifenêtrage et le SCU. Les possibilités de personnalisation étaient décuplées avec l'Extended Lisp. Et puis, il y avait l'ouverture au Mac. C'était une version stratégique pour asseoir leur domination.
Une version charnière, clairement. Ce qui nous amène, peut-être, à une dernière petite réflexion. Quand on voit ces avancées de 1989, le multifenêtrage, ces fameux maillages 3D, la course à la mémoire vive, on peut se demander comment ces choix pionniers ont, en quelque sorte, façonné la suite. Ont-ils ouvert des portes? Ou peut-être, paradoxalement, en ont-ils fermé d'autres pour l'évolution de la CAO? Les attentes des utilisateurs de l'époque face à cette révolution 3D, est-ce qu'elles ont vraiment été comblées par la suite?
Excellente question. La trajectoire n'est jamais linéaire. Ça laisse matière à penser, effectivement.